Tous les super-héros ne portent pas de cape et ne sont pas reconnus comme tels. Parmi eux, nous pouvons citer les parents Solo. Une fois n'est pas coutume, ce podcast sera plus long car il se présente sous un format différent. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage aussi touchant que parlant de Tati Sam. Bonne écoute! Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Noé et ensemble nous allons voir comment bichonner nos petits veaux, qu'ils soient petits ou grands. Alors coucou Sam, si tu es prête, nous t'écoutons.
Hello, bonjour à tous. Merci Noé en tout cas de me permettre de pouvoir m'exprimer sur ce sujet qui reste d'actualité, mais qui à mon sens est encore trop tabou. Donc aujourd'hui vraiment, je vais apporter mon soutien à toutes les personnes, hommes ou femmes, qui vivent la même réalité que moi, c'est-à-dire qui sont un seul parent, à accompagner un ou plusieurs enfants. Alors, si je peux me présenter un petit peu plus, donc voilà, certains me connaissent, hein bon, sous le nom de Tati Sam, mais voilà, je suis Samantha, maman d'un préado, d'un garçon qui a déjà 12 ans, je n'ai qu'un seul enfant, j'ai toujours été seule avec mon fils, je reviendrai par la suite sur ça. Je suis travailleur social dans ma vie séculière et je m'investis beaucoup, beaucoup, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau d'Advent Life, parce que vraiment, j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. Alors, il y a 12 ans, j'étais en train de faire mes études pour devenir travailleur social et j'ai découvert que j'étais enceinte. Il y a 12 ans, il faut dire que j'étais une jeune femme très vulnérable, naïve et qui ne faisait pas toujours de bons choix. Donc, en tout cas, ce choix s'est imposé à moi et il a fallu que je prenne une décision. Donc, le papa de mon fils, lui, il n'était pas du tout prêt à devenir parent et nos chemins se sont séparés parce que ça ne rentrait pas du tout dans ses projets et moi, je dois t'avouer que j'ai eu très peu de temps en fait pour prendre cette décision. Pour moi, je ne pouvais pas envisager autre chose à ce moment-là. Alors, durant les premiers mois, je vivais encore chez mes parents et je les bénis parce qu'ils ont été d'un réel soutien. Donc déjà, j'ai vécu ma grossesse toute seule, avec toutes les difficultés que cela peut comporter. Ce n'était pas facile. Merci Seigneur, durant le premier trimestre, en dehors des douleurs, je n'ai pas eu de nausées, de vomissements. Donc je bénis Dieu parce que si vraiment j'avais dû passer par cette phase-là, je pense que je n'aurais pas pu. J'étais déjà tellement affectée, en fait, sur le plan psychologique à cause de la séparation douloureuse et brutale que j'avais eue avec cet homme à l'époque. Ça a été très compliqué. Donc, en plus, avec une culpabilité énorme à porter, puisque, bien sûr, aux Antilles, certaines personnes, malheureusement, essayent de trouver des boucs émissaires dans toute situation. Donc là, j'avais été accusée d'avoir fait exprès et tout ça. Enfin bref, ce sera certainement l'objet d'un autre podcast, mais pour en revenir à ce choix, vraiment, je me suis retrouvée seule. Ça a été difficile également pour mes parents, parce que j'ai une jeune maman qui elle-même en était à sa quatrième grossesse. Donc, mon dernier frère allait naître 2 mois après. 2 mois après l'annonce de ma grossesse. Donc, inutile de te dire que la nouvelle n'était pas bienvenue. Attendre un bébé en même temps que sa mère, qui avait une quarantaine d'années à l'époque, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai dû porter tout ça et j'ai dû aussi me batailler pour mener à bien cette grossesse qui n'a pas été de tout repos. Parce que dès les premiers mois, en fait, on m'a annoncé que mon bébé avait un risque de trisomie. Donc, il a fallu que je fasse une batterie d'examens. Donc, à chaque fois, je me rendais toute seule aux examens et à chaque fois, j'étais en larmes. Mais Dieu soit loué parce que durant tout mon parcours, il a toujours mis sur ma route des personnes de soutien, des personnes de réconfort. Et j'avais une superbe sage-femme qui me laissait pleurer et après qui m'encourageait, qui me disait « Bon, écoutez, Madame Periatombi, là, il va falloir y aller. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir prendre une décision. » Donc, du coup, voilà, on a décidé de passer par la myosynthèse pour vraiment approfondir en fait, approfondir les examens et être fixé sur le sort de cet enfant. Donc, j'ai eu une amniocentèse, je pense, à 3 mois et demi, mais bien avant en fait la date où on peut annoncer le sexe. Donc, j'ai su le sexe de mon bébé très, très tôt. Donc, bien entendu, personne ne pouvait m'accompagner puisque ma mère, elle avait son enfant, mon beau-père y travaillait. Et puis, c'était difficile pour eux, en fait. Et même moi, je n'osais même pas leur demander parce que, en fait, je me disais que non, il faut que je prenne mes responsabilités, que je me suis engouffrée dans cette situation. Et maintenant, il va falloir que je compte sur moi, mais surtout que je compte sur Dieu. Et à l'époque, je n'avais même pas la relation que je peux avoir, avec lui. Mais je pense que tout ce parcours m'a vraiment fortifiée dans ma foi. Alors, du coup, la myosynthèse, gloire à Dieu, a décelé qu'il n'y avait pas d'anomalie et que je pouvais garder mon bébé, et j'ai su que c'était un garçon. Alors, cette nouvelle n'a pas été simple parce que à l'époque, je pense que j'avais ce devoir de réparation et je voulais absolument une fille. Et dans mon schéma de pensée, je me disais que je veux une fille pour lui enseigner à ne pas tomber dans les travers que moi-même j'ai vécu. J'avais vraiment ce syndrome de la justicière. Et non, 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 c'était un garçon. Donc, coup de massue, il a fallu accepter. Il a fallu aussi cheminer pour pouvoir casser, en fait, tous ces mythes hein, que je m'étais fondés et accepter cet enfant dans son entièreté. Par la suite, j'ai été très tôt arrêtée. J'avais deux choix qui se présentaient. Soit j'étais hospitalisée du sixième mois jusqu'à la fin de la grossesse parce que j'avais un col dilaté et un bébé qui était déjà très bas. Soit je restais à la maison avec la visite d'une sage-femme plusieurs fois par semaine et un régime alimentaire strict parce que je n'étais pas immunisée à la toxoplasmose et vraiment, vraiment, avec une ordonnance selon laquelle je devais rester couchée constamment, me lever à la limite pour la douche et le repas. Mais je ne devais même pas cuisiner. Ah, je me suis dit non, c'est pas possible. Je dois me remettre d'une séparation, je dois faire le deuil de la vie de famille, je viens de subir une amniosynthèse et maintenant, voilà que à peine 2 mois de tranquillité, je dois rester couchée jusqu'à la fin de ma grossesse, alors que je ne travaillais pas, puisque je venais juste d'avoir mon diplôme. Donc ça, c'était la bonne nouvelle en début de grossesse, et que je ne pouvais même pas aller travailler. Je ne pouvais rien faire. Rien, rien, rien faire. Heureusement que je vivais chez mes parents et ils ont vraiment pris soin de moi. J'ai une superbe sage-femme, encore une fois, qui m'a soutenue et accompagnée. Et ce que je retiens, c'est que toutes les personnes qui m'ont entourée, en tout cas au niveau médical, étaient dans le non-jugement. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Parce que au niveau de la famille, déjà, c'était pas évident. Bon, voilà, hein, la mentalité anti-ESA, la fille a été et fait un bébé alors que sa maman est bébé. Enfin bref. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, je me faisais toute petite en fait. Donc, quand mon fils est arrivé, ma première idée a été rapidement de rechercher un emploi pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Parce qu'il était hors de question que je reste à la maison à m'occuper de mon fils. Mais très vite, en fait, j'ai été rappelée à la réalité, c'est que cet enfant avait aussi besoin de moi. Parce que même si mon fils était très calme, au début des nuits, au début des soirées, il réclamait énormément d'attention, il pleurait beaucoup, je n'en pouvais plus, 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 j'étais épuisée, je n'en pouvais plus. Et il a fallu que je me fasse soutenir, en fait. Donc, durant les premières années, j'ai quand même rencontré hein, carrément des psychologues parce que j'avais besoin de parler et j'avais besoin aussi de conseils qui étaient aussi importants pour moi dès lors que cet enfant est arrivé, c'est de ne pas lui transmettre la colère que je pouvais avoir au-dedans de moi. Je ne voulais pas qu'il partage mes blessures. Donc, je lui parlais toujours ouvertement, mais j'essayais de faire en sorte de ne pas le blesser et de répondre à ses questions en toute honnêteté, hein, parce que les enfants, quand ils grandissent, surtout lorsqu'ils commencent à être en âge de fréquenter l'école ou même la garderie, ils ont des questions, mais mon papa et tout ça, donc c'était un gros challenge. Parce qu'au-dedans de moi, j'étais encore blessée, j'étais vraiment détruite. Et en même temps, je devais faire attention vraiment au petit cœur de cet enfant parce qu'il n'avait rien demandé et ce n'était pas de sa faute. J'ai compris que ma vie allait être mise entre parenthèses. Dès cet instant, mon fils a été ma priorité. Donc pendant plusieurs années, je me suis oubliée. Il n'était plus question de moi. Je devais batailler pour lui offrir vraiment un avenir. Dans un premier temps, j'avais déjà mes difficultés sur le plan émotionnel et psychologique. Ensuite, ça a entraîné des difficultés physiques, mais aussi des difficultés financières. Parce que malheureusement, les défis d'un parent monoparental, c'est aussi le fait qu'on n'a pas de vis-à-vis. On n'a personne sur qui on peut compter, personne à qui on peut se confier également. Et financièrement, on ne peut compter que sur le seul revenu qu'on possède.
C'est ça.
Par la suite, quand mon fils était un petit peu plus grand, mais moi j'avais toujours ce désir de trouver un emploi et puis de quitter aussi le domicile familial parce que je sentais quand même qu'il était temps que je m'en aille. Deux bébés dans une même maison, je t'avoue franchement, Noé, que je culpabilisais, j'avais même honte en fait. Pourtant, un enfant, c'est une joie, c'est oh là là, mais je dirais pas que c'était un fardeau, mais c'était lourd de conséquences. Étant donné que je ne trouvais pas du tout d'emploi en Martinique, donc j'ai fait le choix de partir. Donc, partir, ça veut aussi dire bah, couper les seuls liens que j'avais à l'époque. Parce que je pouvais quand même me reposer sur mes parents, mais partir, ça veut dire que j'étais vraiment seule de chez seule. Donc, à ce moment-là, bah, j'ai dû m'endurcir. Je me suis même mise une carapace, et dans cette carapace, il était hors de question que je tombe malade ou que j'aille mal, en fait, ou que je montre à mon fils que ça ne va pas. Donc, j'ai bataillé durant des années. Et d'ailleurs, j'ai eu un impact hein, sur le plan physique par la suite. Mais lorsqu'on a un parent monoparental, en fait, on ne se pose pas de questions. L'enfant peut être malade, mais nous, on ne peut pas tomber malade, en fait. On ne peut pas tomber malade. On ne peut pas montrer à l'enfant que ça ne va pas. Parce que ce n'est pas son problème, en fait, à lui. Et quand bien même, lorsque mon fils a grandi, ben, nous sommes quand même devenus des partenaires parce que je lui ai expliqué que j'ai aussi besoin de son soutien pour certaines choses à la maison, en tout cas des choses qu'il est en capacité de faire, comme ranger derrière lui ou lorsqu'il est en âge de le faire, faire la vaisselle, descendre la poubelle, ce genre de choses. Quand je suis à découvert, ça, ce n'est pas son problème, en fait. C'est à moi de trouver des solutions pour que lui ne se sente pas lésé.
Chacun sa place.
Exactement, chacun sa place. Inconsciemment, lorsqu'on est seul, la culpabilité fait que on a toujours tendance à se dire, ouais, mais il n'a pas son père, donc je suis obligée. Ouais, mais il n'a que moi, donc je suis obligée. Et on ne vit plus, on ne s'autorise même plus à être à l'écoute de soi-même et à vivre. Ça m'a vraiment posé des problèmes énormes parce que je suis tombée en dépression ben, à plusieurs reprises hein, d'ailleurs. Me relever, c'était difficile parce que je ne pouvais pas montrer que ça n'allait pas. Donc, il a fallu que je sois aussi honnête avec lui, avec vraiment des mots hein, adaptés à son âge et à sa capacité de comprendre et que je lui dise, écoute Thaïs, tu sais, être seule, c'est pas toujours évident. Puisque un enfant, en plus, ça demande énormément de choses. Donc, surtout quand il commence à aller à l'école, ah oui, mais mon copain, il a ci, il a ça. Et maman, est-ce que je peux avoir ci? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce qu'on peut aller par ci? Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Quand on pourra, par contre, on fera en sorte. C'est une discussion incessante, parce qu'il faut aussi expliquer pourquoi, pour que l'enfant ne soit pas frustré. Donc, c'est aussi se lever plus tôt pour avoir un temps personnel qu'à soi. Mais ça, je pense que c'est le quotidien même quand on est à deux. Un
Oui, c'est
temps
vrai.
qu'à soi pour pouvoir être rechargé et être disponible et disposé. Disponible pour écouter, pour recevoir et disposé à donner. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et c'est aussi se coucher plus tard parce qu'il y a toute la gestion du quotidien. Voilà, les lessives, le ménage, le repas, préparer les affaires, enfin bref.
As-tu des conseils à donner basés sur ton expérience?
Qu'est-ce qui m'a aidée durant toutes ces années-là? Ce qui m'a aidée, c'est premièrement la foi. Si je n'avais pas la foi, je pense que je serais déjà. Je serais déjà. Je ne sais même pas où je serais. Peut-être que j'aurais cédé, je n'aurais pas pu y arriver. Dieu a été mon soutien et il a été fidèle du début jusqu'à aujourd'hui. Il l'est encore. Vraiment. Malgré tout, ce qui me manque, et je lui dis parfois dans mes temps personnels hein, avec lui, je lui dis, Seigneur, vraiment, même si tu es présent, même si tu me soutiens, avoir un vis-à-vis, quelqu'un à qui je peux confier les difficultés que je peux rencontrer, que je peux vivre, quelqu'un qui peut m'épauler, me soutenir, ça manque. Ça manque véritablement. Et puis les jours où je me sens pas bien, ben quelqu'un qui peut prendre le relais, ça manque aussi. Tu vois, il m'est déjà arrivé de me faire conduire aux urgences en pleine nuit, alors que mon fils s'était endormi, et dire ben, aux soignants à 4 heures du matin, ben écoutez, je suis désolée, mais malgré la douleur, je suis obligée de rentrer chez moi parce que il faut que je m'occupe de mon fils. Tu vois, donc ouais, c'est pas simple, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Alors premièrement, développer la foi. Deuxièmement, passer par un processus de guérison. C'est essentiel. Troisièmement, ne pas être dans la comparaison. Chacun son parcours, chacun sa saison également. Peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une saison, voilà, où on doit tout gérer seul. Mais il y a un verset qui m'a toujours encouragée. C'est dans le Nouveau Testament, je ne me rappelle plus du livre, mais c'est quand il dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter.
C'est 1 Corinthiens 10, verset 13.
Ce verset m'encourage beaucoup parce que je dis, Seigneur, je peux le faire. Avec ta grâce, avec ta grâce, je peux le faire. Donc, on sèche les larmes, on se redresse, on prend une bonne bouffée d'air et on y va. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on le fait. Ensuite, quatrièmement, avoir une routine dans laquelle on prend soin de soi, physiquement, mentalement également, parce que c'est très, très, très important. Malheureusement, dans la vie, on ne tombe pas sur des personnes qui sont toujours bienveillantes, des personnes qui sont toujours en capacité de recevoir ce qu'on a à leur dire. Et c'est correct. On n'a pas à leur en vouloir. Maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait d'écrire, de prendre un cahier ou des feuilles et puis de déverser tout ce que j'avais à dire. Et puis, voilà, après, je me sens mieux. Voilà, ce que je peux garder, je garde pour m'encourager. Et puis, ce sur quoi j'ai vraiment mis des choses terribles, hop, je déchire et ça part à la poubelle et je passe à autre chose. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'encourager une femme, un homme. C'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Et un autre verset qui m'encourage beaucoup, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Tant que Dieu n'a pas décidé que c'était la fin, il sera à mes côtés et il m'accordera vraiment la capacité d'y parvenir. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous, chers auditeurs.
Tu es passé par tellement de choses, quelle force de caractère. Je pense que Dieu t'a beaucoup soutenu, mais tu as en toi cette force aussi, hein, je pense. Hein. Je voulais juste te poser une question. Est-ce que par rapport à ton fils, est-ce que tu vois les effets justement, quels effets tu vois du fait que vous êtes plus proches l'un de l'autre, le fait qu'il est son père ne soit pas présent? Est-ce que tu vois par exemple que c'est quelqu'un qui grandit plus vite mentalement? Est-ce que tu vois quand même quelque chose, un effet sur ça?
Alors, je vais déjà rebondir par rapport à ce que tu m'as dit. En fait, je pense que les épreuves nous forgent. Et la vie est faite de choix. Et j'aurais pu choisir de dépérir et j'aurais pu choisir également de confier mon fils. Je t'avoue que ça a été une option, hein, parce que je ne m'en sentais vraiment pas capable. À plusieurs reprises, je ne m'en sentais pas capable et j'ai même eu des idées suicidaires quand il était très jeune. Parce qu'on est, voilà, ça fera l'objet d'un autre podcast, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est passé par des moments très difficiles, on a vécu l'hôtel, voilà, tu vois, être hébergé, ballotté de maison en maison. Puis mon fils est passé par une phase aussi, il a été diagnostiqué asthmatique, mais Dieu soit le Dieu l'a guéri vraiment, mais ce sera un autre témoignage des auditeurs. Et je t'avoue que durant ces moments-là, j'étais au creux de la vague et j'ai pensé vraiment en finir. Mais Dieu a été fidèle. J'ai toujours eu une parole d'encouragement. J'ai toujours eu une situation qui m'a rappelé que je n'étais pas seule. Vraiment, je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est lui qui a permis. Mais comme je dis, ça a été un choix aussi. Parce que j'aurais pu choisir d'arrêter. J'aurais pu choisir d'écouter l'ennemi et d'en finir. Mais Dieu m'a toujours rappelé à l'ordre. J'ai toujours été saisie à la dernière minute en me disant, mais non, mais pourquoi je pense à cette cas, c'est pas possible. Et là, tac, je pense à un chant de louange. Ou bien, tac, je pense à un passage dans la Bible. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup cherché à me rapprocher de Dieu. Donc, j'ai fait plusieurs églises à l'époque. Et puis, il a fallu vraiment que je passe par un processus aussi et que je rencontre les bonnes personnes pour pouvoir savoir comment je devais partir ma relation personnelle avec Dieu. En ce qui concerne mon fils, il a fallu aussi que je prenne position. Parce que malheureusement, son père avait prononcé des paroles de malédiction, des paroles dures. Et il a fallu que moi, je prenne position et que je dise que ça n'arrivera jamais. Donc, comme je t'ai dit, durant tout mon parcours, j'ai choisi de me faire accompagner. Donc déjà, moi, j'ai suivi une thérapie et je l'ai aussi emmené en thérapie, mon fils. Et on m'a fait comprendre que le problème, ce n'était pas lui, qu'il était bien équilibré, cet enfant, et même très épanoui, mais que c'était moi le problème, qu'il fallait que je change aussi mon schéma de pensée et que je mette en place toutes les stratégies nécessaires pour ne pas le laisser reproduire ce que moi, j'ai subi, ce que moi, j'ai vécu. Donc, très tôt, j'ai mis en place des choses pour qu'il se sente toujours épanoui, pour qu'il se sente toujours valorisé. Encore aujourd'hui, tu sais, j'ai dû changer aussi ma mentalité. Et très tôt, mon fils, je le baignais d'amour. Tout le temps, je lui disais que je l'aimais. Tout le temps que je lui disais qu'il était fort, que je crois en lui. Et ça l'a accompagné. Et par la suite, j'ai fait en sorte également que lui-même il soit confronté à cette valorisation de soi. Donc, j'achetais beaucoup de lectures, tu sais, sur l'estime de soi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un gros lecteur. On n'a pas du tout de télévision. On en a eu une hein, à un moment donné, mais qui ne nous servait à rien parce que finalement, on passe beaucoup de temps en face à
Tellement.
face. On passe
Ah,
beaucoup de temps
ça
en tête à tête. Je fais toujours en sorte de rester à son écoute, de l'accompagner dans les défis qu'il peut rencontrer parce que c'est pas simple non plus pour lui. Voilà, il voit les autres enfants et au fond de lui, il y a ce petit truc. Mais je le répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, j'ai toujours fait en sorte que mes blessures n'aient pas d'impact sur lui. Donc lui, dans son cœur, j'ai déversé de bonnes choses, des paroles valorisantes, même sur le papa, en disant que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'était pas prêt. Au contraire, qu'on doit prier pour lui, ne pas le juger, ne pas le condamner, peu importe la décision qu'il a prise, parce que c'est notre responsabilité. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est quand même un enfant épanoui. Je ne dirais pas qu'il n'a pas de manque, voilà, mais je fais en sorte de discuter, d'échanger avec lui et de faire de cela un sujet de prière.
Un enfant qui vit avec qu'un seul de ses parents, c'est difficile, comme tu l'as dit, il a ce manque. Mais un enfant qui peut avoir ses deux parents peut aussi avoir un manque, parce
Tout
que au
à
fond,
fait.
ce qui compte, c'est l'amour, l'environnement dans lequel il grandit. Et toi, tu l'as baigné d'amour. Je pense que c'est ce dont les enfants ont besoin avant tout. Et ça a dû compenser justement le fait qu'il n'y ait pas un autre parent à la maison.
Oui, tout à fait. Puis le fait que nous soyons aussi loin et également de nos familles, en fait. Parce que ça aussi, ça lui manque. Ne pas avoir de cousins, ne pas avoir de bah, mamie, les tontons, tu vois, ça manque énormément. Mais voilà, je lui rappelle tout le temps que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, que Dieu nous a appelés à le servir pour une mission, que nous sommes de passage et que aujourd'hui, notre famille, c'est nous. Nous tous les deux, et qu'un jour, Dieu nous permettra d'être tous réunis. Et puis, je lui ai aussi raconté mon histoire, tu vois, j'ai été transparente avec lui, avec vraiment des mots simples. Je ne suis pas rentrée dans les détails non plus, mais je lui ai dit, tu sais, ce que moi j'ai vécu, je ne le souhaite pas pour toi. C'est pour ça que vraiment, je souhaite que déjà, tu bâtisses ta personnalité. D'ailleurs, je le bassine tellement avec ça et ta propre personnalité. Apprends à dire non, parce que moi, je ne savais pas le faire. Et ce que j'aurais voulu, c'est bien sûr avoir une famille avec un papa, des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne peux pas lui offrir. Mais avec la grâce de Dieu, certainement, ça changera. Et c'est ce que je veux pour lui. Donc, il sait aujourd'hui qu'il, premièrement, il doit apprendre à s'apprécier et à s'aimer. Et lorsqu'il sera suffisamment en capacité bah, de faire de bons choix et que son réservoir sera rempli, là, il pourra laisser quelqu'un d'autre entrer dans sa vie. Mais c'est un travail de tous les jours parce qu'il le sait, mais demain, il peut y arriver qu'il soit confronté à une situation et il dévie. C'est comme ça dans la vie, on n'est pas à l'abri d'un accident. Ceci étant, je suis à ses côtés pour l'accompagner. Il m'arrive d'avoir des craintes, vraiment des angoisses, hein, et de me dire, Seigneur, mais s'il m'arrive un truc un jour, qui prendra le relais? Mais encore une fois, ça ne m'appartient pas. Le jour où cela devra arriver, ben, Dieu fera ce qu'il a à faire, tout simplement. C'est pas évident tous les jours, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut tout par celui qui nous fortifie. Et vraiment, après, moi, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur, c'est de pouvoir faire des groupes de parole pour s'entraider les uns et les autres. J'en ai eu dans le passé, et aujourd'hui, bon, je n'ai plus le temps, mais franchement, je fais un appel aux parents qui vivent bah, la même réalité que moi et qui n'ont pas de soutien amical ou familial. Pensez-y, vraiment créer un groupe où on peut s'entraider, femmes, hommes, prier ensemble également pour se fortifier et puis partager nos conseils. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je m'occupe des enfants avec Advent Kids, donc je ne peux pas tout faire, mais c'est un appel bah, que la personne prie, consulte l'Éternel pour savoir ce qu'il y a à faire parce qu'on en a besoin.
On arrive à la fin. Est-ce que Sam, tu as un dernier mot pour les auditeurs?
Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez surtout pas. En tout cas, je te remercie, Noé, de m'avoir offert l'occasion de partager mon témoignage et mon parcours. Et si je peux prier rapidement, vraiment, Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir partager avec nos amis, nos frères et nos sœurs les difficultés que nous avons pu rencontrer, mais surtout la manière dont tu nous en as sortis. Père, je te rends gloire, honneur et louange, et je prie qu'au travers de ce passe, de nombreuses personnes soient bénies et édifiées. Que de nombreuses personnes, Seigneur, aient à cœur de témoigner de tout ce que tu as fait dans leur vie. Non, Seigneur, nos enfants ne seront pas dans la perdition parce que ce n'est pas ta volonté. Nous parviendrons à emmener ces enfants vraiment sur la voie que tu veux leur enseigner. Accorde-nous chaque jour de nous instruire afin de faire de notre maison cet havre de paix. Cet endroit, Seigneur, où nous partageons les valeurs de ton royaume et que l'amour vraiment qui dépasse toutes choses puisse vraiment remplir nos cœurs afin que nous puissions le partager avec nos chers enfants. Que toute la gloire te revienne encore et encore au nom de Jésus. Amen. Je remercie beaucoup Noé et puis dis aux auditeurs peut-être à bientôt pour une nouvelle portion de mon histoire ou d'une autre histoire parce que moi aussi je suis bénie quand j'entends les témoignages des autres. À bientôt!
À bientôt.
Samantha nous parlait de sa communication honnête et pleine de foi avec Dieu qui l'a beaucoup aidée. À côté de ce soutien capital, il existe des aides qui émergent depuis quelques années, comme la maison des monoparents pour les difficultés de logement et de solitude, la maison des cimes ou encore la fondation Notre-Dame. Je vous laisse avec le psaume 68, verset 6, qui dit « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Ça veut dire que Dieu soutient le parent seul et l'enfant manquant d'un ou des deux parents, quelle que soit la raison. Il est votre meilleur allié.
Allez, bon courage les parents et que Dieu nous bénisse.